これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ。
Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven. Avec Paola Reimann.
À la lecture, Valérie Lang. Pourquoi Proust fait-il de longues phrases ? Certains diront que c'est parce qu'il manquait de souffle et que l'écriture vengeait la malédiction des asthmatiques. D'autres présenteront ces phrases comme les circonvolutions des rapaces autour d'un objet qu'il faudrait saisir sans qu'il soit mort. D'autres y verront l'œuvre d'un musicien. Le fait est que, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, la recherche du temps perdu est hantée du début à la fin par une petite phrase musicale, cinq notes qui, de soi à nos narrateurs, composent, rassemblent, incarnent, expriment et attisent la totalité de leurs sentiments. À quoi tient ce génie, cette puissance inouïe, ce privilège de la musique? Quelle place occupe la petite phrase dans la grande recherche? Comment la musique parvient-elle mieux que le langage à garantir l'éternité des sensations?
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Mais ils se turent. Sous l'agitation des trémolos de violon, qui la protégeait de leur tenue frémissante à deux octaves de là. Et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit, 200 pieds plus bas, la forme minuscule d'une promeneuse, la petite phrase venait d'apparaître. Lointaine, gracieuse, protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et Swann, en son cœur, s'adressa à elle comme à une confidente de son amour.
Comme cette sonate, la petite phrase de Vinteuil, est quelque chose de très féminin. Elle est décrite comme une femme.
Ah, elle est décrite. Les métaphores qu'il emploie ou les comparaisons dont Proust se sert pour en parler sont très souvent féminines. De la cascade à la promeneuse, hein, d'ailleurs. Les métaphores sont très souvent féminines. Les images sont souvent féminines. Et puis, il faut bien dire que, comme cette petite phrase est l'hymne national de l'amour de Swann pour Odette, puis plus tard du narrateur pour Albertine, elle est inséparable de la féminité qu'elle évoque.
On peut peut-être rappeler, donc c'est une sonate qui est écrite par Vinteuil, mais peut-être rappelons qui est Vinteuil dans La recherche du temps perdu.
Oui, vous avez raison Paola, il faut rappeler qui est Vinteuil dans La recherche du temps perdu. Vinteuil est un prof de piano. C'est un génie, mais c'est un génie caché sous l'apparence austère d'un professeur pudibond de piano dont la fille a des airs de garçon manqué et est en un sens d'ailleurs un garçon manqué. Monsieur Vinteuil habite pas loin de la maison du narrateur, la maison de campagne du narrateur, donc pas loin de Combray, du côté de Méséglise, à Montjouvain. C'est l'endroit où il habite. Une maison située, dit le narrateur, au bord d'une grande mare et adossée à un talus buissonneux. Bon. Et c'est dans cette maison que le narrateur, qui est un voyeur, assiste un jour à une scène de sapphisme ahurissante, à ses yeux en tout cas, entre la fille de Vinteuil, dont le père est mort, et sa petite amie. Laquelle petite amie occupera une place tout à fait importante dans l'économie générale de la recherche. Il faut juste rappeler encore un tout petit peu les choses là-dessus. Vinteuil, la famille du narrateur le connaît parce qu'il avait été le professeur de piano des sœurs de sa grand-mère. Et après la mort de sa femme, et donc ayant hérité, il s'installe donc à Montjouvain. Et dans cette maison, le narrateur assiste après sa mort à cette scène de sapphisme, au cours de laquelle la fiancée de Mademoiselle Vinteuil, la petite amie, la bonne amie de Mademoiselle Vinteuil, crache sur le portrait de Vinteuil. Ce qui vaut au narrateur des tas de considérations sur la délicatesse des masochistes ou un sadisme délicat. Enfin, c'est un texte tout à fait important dans La recherche du temps perdu. C'est un de ces moments comme la première rencontre du baron de Charlus et de Jupien. Un de ces moments où les gens sont regardés sans savoir qu'ils le sont. Ou alors, même s'ils l'espèrent, ils ne savent pas qu'ils le sont, puisque les deux filles espèrent que quelqu'un les mate, mais elles ne savent pas si c'est le cas. Et la fiancée de la fille de Vinteuil, qui crache sur le portrait du père, est également la musicologue qui sauvera l'œuvre de Vinteuil en préservant la petite phrase, en la recouvrant, en la harnachant, et en fabriquant un septuor avec tous les restes déportés de Vinteuil plus tard. De sorte que on a, entre la scène de Montjouvain, c'est-à-dire la scène où la fille de Vinteuil couche avec sa fiancée et blasphème l'image de son père. Et 1500 pages plus tard, l'épisode de la prisonnière où le narrateur, au cours d'une soirée organisée par le baron de Charlus chez Madame Verdurin pour faire mousser Morel, son jeune fiancé, le violoniste Morel, au cours de cette soirée-là, la petite phrase réapparaît sous la forme d'un septuor qui a été recomposé, reconstitué par la cracheuse, par celle qui a commencé par malmener le sujet empirique Vinteuil. Et au fond, tout est là. Vinteuil est un petit monsieur. C'est un petit monsieur assez conservateur qui ne veut pas fréquenter Swann, parce qu'il trouve que Swann a fait un mauvais mariage avec Odette. C'est toute l'histoire d'un amour de Swann. Il trouve qu'il a fait un mauvais mariage, que sa femme n'est pas de bonne fréquentation. Bon, c'est un type un peu snob, un peu timide, qui ne sait pas où se mettre, en définitive, et dont à qui Swann finit par penser un jour comme à un frère inconnu, comme à un frère caché, dont Swann se demande quelle somme de douleur il a bien pu accumuler pour être capable de composer un tel chef-d'œuvre, dont il faut rappeler, Paola, qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il est. Proust en parle sur des dizaines de pages dans La recherche du temps perdu, et on ne sait pas qui est l'auteur véritable de cette petite phrase, de sorte que nous serons accompagnés pendant toute cette émission par des versions possibles de la petite phrase, tantôt Schubert, tantôt Chopin, tantôt Beethoven.
Tantôt Mozart.
Tantôt Mozart, effectivement.
Alors, pour revenir au texte qu'on vient d'entendre, où la petite phrase est comparée à une promeneuse, quelle est vraiment, c'est une promeneuse dans La recherche du temps perdu, elle apparaît au détour d'une page. Et alors, la métaphore est intéressante parce qu'il parle donc d'une cascade, d'une vue au-dessus d'une cascade, d'une vue un peu en plongée. Et savez-vous, enfin, je ne sais pas si vous le savez, Raphaël, mais c'est marrant parce que Nietzsche, dans le cas Wagner, en parlant de la musique de Bizet, utilise exactement, enfin presque la même métaphore, parce qu'il dit qu'en entendant la musique de Bizet, c'est comme s'il voyait le monde, enfin c'est comme s'il embrassait le monde du regard comme du haut d'une montagne.
On peut rappeler un instant, puisque vous parlez de Nietzsche, pourquoi Nietzsche aimait tant Bizet. On en avait parlé quand on avait parlé du Gai Savoir dans le Gai Savoir. Nietzsche adorait Bizet parce que Bizet est celui qui dépose une musique joyeuse sur une réalité douloureuse. Non pas pour masquer la réalité, mais pour au contraire permettre de la regarder, permettre de l'éprouver. Bizet est une école de douleur pour Nietzsche. Et Proust et Nietzsche, d'ailleurs, ont un rapport tout à fait comparable à la douleur. C'est-à-dire que la douleur a le même statut chez Proust et chez Nietzsche. Il dit ceci, « Les petites énigmes constituent un danger pour les plus heureux. » C'est une phrase de Nietzsche qui résume chacun des moments de la recherche où le narrateur se donne pour tâche de saisir l'énigme de bonheur que lui proposent des phénomènes aussi anodins que la saveur d'une madeleine, la forme d'un clocher, le bruit d'une cuillère, la raideur d'une serviette, etc., etc. Mais la meilleure façon de transformer les phénomènes en énigmes, c'est, à l'image du narrateur qui découvre en faisant le deuil de sa grand-mère l'étrange contradiction de la survivance et du néant et veut respecter, dit-il, l'originalité de sa souffrance, la meilleure façon de saisir l'énigme que compose chaque phénomène, c'est de faire comme Swann dans La recherche du temps perdu, c'est-à-dire de se laisser bouleverser par une petite phrase et se demander soudain au fond de quelle géhenne le compositeur Vinteuil a puisé la force d'un dieu. Et c'est le dolorisme de Nietzsche qui n'est pas rédempteur. On en a parlé déjà. C'est un dolorisme qui n'est pas rédempteur. Nietzsche dit, il faut enfanter nos pensées du fond de nos douleurs, les pourvoir de tout ce qu'il y a en nous de sang, de cœur, de désir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité. Or, c'est exactement à ce travail-là que ce livre Swann, ce travail involontaire, que ce livre Swann, à chaque fois qu'il tombe, comme par hasard, sur les cinq notes immenses qui composent cette toute petite phrase où se concentre toute sa vie, de sa plus grande joie à sa plus grande détresse ou tristesse.
Vous voyez, le texte qu'on vient d'entendre commence par « Mais il se ture ». Et c'est marrant parce que dans la recherche du temps perdu, à chaque fois que se pointe la petite phrase...
Vous avez raison d'employer ce « pointe », parce que c'est effectivement ça. C'est une fine pointe. C'est pas de l'argot quand vous dites ça.
Eh bien, à chaque fois, elle impose le silence. Elle impose toujours le silence, même dans le salon des Verdurin. Tout le monde se tait quand arrive la petite phrase.
Alors, il y a même un passage d'ailleurs, quand la petite phrase devenue septuor est proposée aux invités du baron de Charlus qui reçoit chez Madame Verdurin, où Charlus fait une tête épouvantable à tous ceux, à tous les mondains dont l'éventail ou bien le pied d'une chaise vient rompre l'harmonie surnaturelle que compose ce cérémonial qui est l'arrivée de la petite phrase. Il y a un passage comme ça dans quelque part dans l'Inachevé de Jean Kélévitch où il dit quand le conférencier a enfin terminé son interminable conférence sur Debussy et que Debussy lui-même prend à son tour possession de l'espace sonore, quand l'enchanteresse élève sa voix enchantée, nous sommes transportés dans un autre monde, un monde inespéré, ensorcelé, et sur lequel les mots n'ont plus de prise. Ce merveilleux je ne sais quoi n'a aucun rapport avec le radotage qu'on vient d'entendre. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire que nous nous sentons bien heureusement assiégés, enveloppés, habités, que l'homme se fait musique comme il se fait, mais plus rarement, poème. L'homme lui-même est devenu la musique elle-même. L'homme tout entier est devenu les parfums de la nuit. Qui, entendant le prélude de Péléas, se souvient encore des paroles du bavard ?
L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait, et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses. Circulant dans l'air humide du soir, ont la propriété de dilater nos narines. D'un rythme lent, elle le dirigeait, ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée, et d'où il se prépara à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis, elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut, en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande. Sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
La musique, ici en tout cas, enfin la petite phrase de Vinteuil, c'est vraiment un art de l'instant. Et ce qu'on voit bien dans ce texte, c'est que la première écoute est très importante parce qu'après, quand Swann veut réécouter une deuxième fois, on sent que cette deuxième écoute, justement ce qu'il voulait conjurer, ça lui confirme, c'est l'irréversibilité.
C'est l'irréversibilité, absolument. De telle sorte que la deuxième écoute atténue d'ailleurs le privilège de la première et que la troisième dilue encore la joie qu'il a ressentie dans l'immédiat. C'est la petite Madeleine, hein, la petite phrase. C'est exactement la même affaire. Quand le narrateur goûte la petite Madeleine qu'il a laissée s'amollir dans sa cuillère, donc trempée de thé, l'émotion qu'il éprouve la première fois est extraordinairement violente, mais elle est parfaitement incompréhensible, indicible. Il ne peut pas la nommer, il n'arrive pas du tout à la désigner. L'émotion est d'autant plus violente qu'il n'a pas les mots pour la dire. Et plus elle se concrétise littéralement, matérialise, incarne, mesure, diagrammatise, plus il peut la nommer, moins il l'éprouve. Moins il la ressent. Donc c'est un jeu d'équilibre entre l'être et le savoir. L'expérience de la petite Madeleine comme l'expérience de la petite phrase. Quand la petite phrase surgit, Swann l'entend pour la première fois, il est totalement bouleversé, il ne sait pas pourquoi. Et à chaque fois que ça lui arrive, il y a toujours une émotion qui précède la raison qu'elle se donne ensuite. On comprend d'ailleurs de cette manière que l'amour ne se donne des causes qu'après coup. C'est bien la raison pour laquelle Swann aime une femme qui n'est pas faite pour lui, comme il le dit, qui n'est pas son genre. Et la petite phrase, l'apparition de la petite phrase, comme la petite Madeleine, raconte l'histoire d'une émotion qui précède les causes qu'elle se trouve ensuite, après coup. L'autre chose intéressante dans ce passage-là, je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, Paola, c'est le fait que là, on soit dans un dialogue entre un piano et un violon. Et on ne sait pas, dans le texte de Proust, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, moi, le rondeau de la sonate pour violon et piano de Beethoven, c'est que on ne sait pas, quand on lit le texte de Proust, si vous voulez, si la petite phrase est le propre du piano ou du violon. On ne sait pas où est la petite phrase, en fait. On ne sait pas qui interprète la petite phrase. Alors, ils la reprennent, ils se l'empruntent. De temps en temps, le piano devient l'espèce de déguisement, c'est-à-dire la cascade au fond derrière laquelle la petite promeneuse se fait jour. De temps en temps, c'est le violon qui recouvre les petites notes séparées, différentielles du piano. Ils échangent les rôles, en réalité, là-dedans. Ils sont tour à tour les interprètes de cette petite phrase qui, vous l'avez bien dit, est un témoignage de l'irréversible, de l'irréversibilité des choses. Elle est le propre, disons qu'elle qualifie l'éternité de ce qui ne dure pas. Et c'est le propre de l'art, c'est le propre de toute la recherche du temps perdu. Dans la recherche du temps perdu, le trajet qui consiste à passer du constat que le monde n'est pas à la hauteur de l'idée qu'on s'en fait, à l'enchantement face à ce monde qui n'est que lui-même, ce passage-là suppose la conversion de l'esprit du narrateur qui fait de lui au départ un enfant plein d'espoir et ensuite un artiste qui a remplacé l'imagination et l'espoir par la sensibilité, c'est-à-dire par l'aptitude à éprouver ce qu'il sent et à éterniser ses propres sensations. Or, la petite phrase, comme les textes de Bergotte, comme les tableaux d'Elstir, ce sont les trois formes d'art qui sont représentées par trois artistes dans La recherche du temps perdu, l'écrivain Bergotte, le peintre Elstir et le musicien Vinteuil. Ces trois formes d'art oriente l'esprit, le cœur et l'âme du narrateur vers le sentiment que l'éternité se loge paradoxalement à l'intérieur de ce qui ne dure pas. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que des trois artistes, celui qui est le moins artiste, c'est manifestement Bergotte. C'est l'écrivain, au fond, qui a le moins de mérite aux yeux du narrateur. En tout cas, c'est celui dont il fait en définitive le moins de cas de l'œuvre. Mais ça c'est une autre histoire. Pour en revenir à la petite phrase, Paola, le mystère de cette petite phrase qui hante la recherche, c'est qu'elle exprime un milliard de trucs. Je m'étais amusé à relever toutes les métaphores que cette petite phrase exprime, tout ce qu'elle dit. Elle dit, on l'a entendu, la mauve agitation des flots que bémolise le clair de lune. Elle raconte l'histoire d'une passante dont celui qui la croise ignore où elle fuit. C'est pour ça que j'ai proposé à nos auditeurs le texte de Baudelaire sur la musique de Beethoven. Elle raconte à un moment l'arc-en-ciel qui éclate en couleurs avant de s'éteindre. Elle raconte le décalage entre un amour et les qualités objectives d'une femme ou d'un homme qu'il prend pour souffre-douleur. Elle raconte aussi les 1000 petits baisers que les amants se donnent en riant. Toutes ces images, on va les entendre dans cette émission. Elle raconte la dilution des soucis matériels en une réalité supérieure aux choses concrètes. Elle raconte la lumière d'une lampe qui efface soudain jusqu'au souvenir de l'obscurité, les becs de gaz qu'on est un boulevard des Italiens, la trace indélébile de la sécheresse de la vie. Et il y en a d'autres, hein. Mais surtout, la question qui se pose, c'est comment 5 notes parviennent-elles à dire tellement de choses? Comment, à quelle grâce, quel malentendu, une mélodie de 5 notes doit-elle d'être à la fois si précise et tellement vaste? Comment une phrase sans mots devient le langage commun de la tristesse, de l'amour, de la joie? Alors vous avez l'hypothèse faible qui est de dire que c'est parce que la petite phrase est comme une sorte d'ectoplasme qui, parce qu'elle est inconsistante, épouse la forme de l'émotion qui l'accompagne. Un peu comme un vêtement de ville, vous savez, si vous repassez bien un vêtement de ville, il conviendra aussi à une soirée chic, ou mondanité par exemple, mondanité du narrateur. Une telle hypothèse réduirait la petite phrase à un ornement, c'est-à-dire effraie de Vinteuil un pianiste de bar, si vous voulez. À un ornement, ou pire d'ailleurs, à une consolation. L'autre hypothèse, hypothèse haute, c'est de considérer que cette petite phrase parle à mots couverts une langue secrète, dont l'acuité tient précisément à son caractère évasif, et qui devient immatérielle à mesure qu'elle s'incarne, à la manière dont un peu d'abstraction nous éloigne du monde, mais beaucoup nous y ramène. Et ça, c'est la deuxième hypothèse. C'est l'hypothèse qui reçoit ma faveur et qui, me semble-t-il, est illustrée par ces trois adjectifs, noble, inintelligible et précis. Pour parler de la petite phrase.
Et c'est ça le paradoxe, c'est que, enfin, ça en tout cas, elle m'a paru à la fois, elle est toujours très intime et inaccessible.
Tout à fait, elle est aussi inaccessible que notre intimité. Rien n'est plus loin de nous que nous-mêmes. Rien n'est plus loin de nous, aucun voyage n'est plus aventureux que le voyage immobile qui nous reconduit à l'intérieur même de nous-mêmes, si vous voulez, en cet autre qui repose en nous, dont le narrateur a l'intuition quand il regarde Albertine dormir, et où pour une fois, au lieu de se désoler qu'elle accède à l'infini et qu'elle lui échappe, il se réjouit tout simplement qu'elle soit là, dans son altérité. L'intimité, c'est le Graal de l'écrivain. C'est le Graal de l'écrivain, c'est le Graal de l'individu, et la meilleure façon de ne pas y parvenir, c'est l'introspection. C'est en cela qu'il n'y a pas d'introspection dans La recherche du temps perdu. Ce texte qui est écrit à la première personne n'est pas un texte d'introspection. Ça n'est pas un texte où le narrateur se cherche lui-même. Ça n'est pas lui qu'il cherche, c'est l'autre qu'il porte en lui. Il y a un passage comme ça dans lequel le narrateur parle justement d'un voyage immobile, décrit les artistes comme les habitants en exil d'une patrie perdue. Or cette patrie perdue, c'est quoi? C'est la nôtre. C'est notre monde. Mais c'est notre monde dépouillé des illusions que le moi y a déposées pour supporter d'y vivre. Et le narrateur dit ceci, « Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre. » qui n'est pas du tout la même chose, d'ailleurs. De 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, ici de pas Bergotte. Avec leur pareil, nous volons vraiment d'étoile en étoile. Et ce voyage, qui est le plus aventureux de tous, ce voyage immobile, est exactement le voyage que fait Swann à chaque fois qu'il entend la petite phrase et que le narrateur fait à sa suite quand lui-même entend cette petite phrase qui, comme pour Swann, devient donc, on l'a dit tout à l'heure, l'hymne national de son amour.
À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce, avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Et même, souffrant de songer au moment où elle passait si proche et pourtant à l'infini, que tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée, nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère ou d'un être particulier.
Il se produit en fait comme un déplacement de la jalousie de Swann, non plus seulement vers Odette, mais même vers la musique.
Ah, vous diriez ça. Parce qu'à l'instant du passage en question, du passage qui donc il est chez les Verdurin, il s'ennuie un peu parce que c'est quand même pas... Il a quand même vu mieux, Swann. Hein. Donc il est là par accident, hein, chez les Verdurin. Il est là parce qu'il est amoureux d'Odette et que Odette trouve les Verdurin formidables. Donc il est là par accident, Swann, et il expose son génie mondain au snobisme de ces grands bourgeois. Swann est là par accident et à l'intérieur de ce monde médiocre, infiniment médiocre des Verdurin, c'est-à-dire ce monde d'envieux, se déploie comme un miracle, comme une hypothèse, cette petite phrase qu'il entend, car les Verdurin savent accueillir les musiciens, savent recevoir les musiciens et savent entendre leur génie propre.
Mais tout de même, Raphaël, il paraît jaloux. Peut-être c'est plutôt de la possessivité et que la musique est une beauté que d'autres puissent percevoir et que d'autres puissent apprécier, et pas seulement qu'elle soit pas justement seulement l'hymne national de leur amour.
Ah, peut-être. Alors plus que d'une jalousie, l'expérience d'une dépossession. En même temps, Swann est assez vite rassuré quand il écoute la petite phrase. Et qu'il y a des gens qui l'écoutent autour de lui, puisqu'il l'écoute rarement seul, sauf quand c'est Odette qui le joue très mal d'ailleurs pour lui. Il est assis à côté d'une dame un jour, je crois, qui dit « Oh, qu'est-ce que c'est fort, j'ai jamais rien entendu ni rien vu d'aussi fort depuis les tables tournantes. » Et là, Swann est tout de suite rassuré, parce qu'il comprend au fond que le bonheur qui est le sien, la félicité qui est la sienne, n'est en un sens que la sienne, quel que soit l'univers où il se trouve d'ailleurs, hein, que l'on soit chez des connaisseurs snobs, comme c'est le cas chez les Verdurin, ou chez des ignorants bien élevés, comme c'est le cas dans la compagnie éventuelle parfois du baron de Charlus. De toute façon, l'espèce de félicité artistique que Swann ressent à l'écoute de la petite phrase n'est pas menacée par le mauvais goût d'autrui. Mais en fait, ce qui m'a gêné dans l'hypothèse de la jalousie, Paola, c'est que on est au moment du passage qu'on vient d'entendre, donc que Valérie Lang a lu pour nous, à l'instant de ce passage-là, Swann n'est pas encore jaloux. Il l'est, mais ce sont les premières atteintes de la jalousie. La jalousie est naissante chez lui. Après, elle prendra toute la place, hein, et les feux tournants de la jalousie guideront ses gestes, ses pensées, l'empêcheront de dormir jusqu'à ce qu'il résolve la question une fois pour toutes en cessant d'aimer sa femme, c'est-à-dire en l'épousant. Mais avant cela, Swann souffre mille morts, et on est là vraiment au tout début de la jalousie. C'est pour ça que le mot de jalousie me gêne. Et en même temps, elle semblait connaître, dit Proust, la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. C'est comme la préscience, propre au bonheur d'ailleurs, de l'achèvement du bonheur. On n'est jamais heureux sans imaginer le moment où on cessera de l'être. Le bonheur est une passion triste. Et c'est ce que Swann éprouve avec cette petite phrase.
Et Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement.
Et voilà, du désenchantement. Le désenchantement qui occupe dans l'économie générale de la recherche du temps perdu une place tout à fait importante. Parce que il faut bien comprendre que dans la structure de la recherche, vous avez du côté de chez Swann, qui est le premier volume de la recherche, et à l'intérieur du côté de chez Swann, au milieu, il y a un amour de Swann, dont l'action se passe 20 ans avant la naissance du narrateur. Et détermine de façon magique, ce que sera la vie du narrateur ensuite. Et on le comprend bien plus tard, car l'amour que Swann éprouve pour Odette est donc l'aversion concentrée de l'amour que le narrateur éprouvera pour Albertine. Et il y a toute une série de points communs entre Swann et le narrateur, sauf que le narrateur devance ou surmonte un certain nombre d'impasses où Swann s'échoue, de sorte que le narrateur, lui, devient écrivain quand Swann cesse de l'être.
C'est ça, c'est la différence entre les deux. La différence majeure entre les deux, c'est que Swann reste seulement un amateur. Il ne devient pas artiste.
Alors, Swann ne devient pas artiste. Swann n'a pas la... Il a tout de l'artiste. Il a tout de l'artiste.
Mais il a la sécheresse de la vie.
Est-ce que c'est la sécheresse de la vie? Je ne sais pas. Il a tout de l'artiste. Il a sacrifié son œuvre à sa vie, peut-être. C'est une banalité de le dire. Il y aurait 10 émissions à faire sur les différences infimes et considérables entre Swann d'un côté et le narrateur de l'autre. C'est pas l'objet là, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais une petite remarque, tout simplement. Swann a un tempérament artistique, par exemple, c'est celui qui ne cesse de voir des portraits quand il regarde quelqu'un. Il voit Bloch, le copain du narrateur, il dit « Ah, c'est le portrait de Mahomet II par Bellini, c'est étonnant ».
C'est Zéphora de Botticelli.
Odette, absolument, c'est Botticelli. Tel autre, c'est la Charité de Giotto, et ainsi de suite. Et il ne cesse comme ça de se représenter, de picturaliser les individus qu'il voit, c'est-à-dire de voir des tableaux quand il voit des êtres réels. Ce qui n'est pas un déni de réalité, au contraire. C'est une exaltation de la réalité. C'est qu'il rend la réalité artistique, il ne lui tourne pas le dos. On comprend avec la dilection, l'amateurisme au sens fort, c'est-à-dire l'amour de Swann pour l'art, c'est-à-dire pour le réel, à quel point l'amour de l'art ne nous détourne pas du réel, mais au contraire, nous rend attentifs aux merveilles qu'il dissimule à des yeux inexperts. Mais là où, dans ce passage, on a la préscience de ce que sera le narrateur, enfin du lien entre Swann et le narrateur, c'est que la petite phrase semblait connaître la vanité d'un bonheur dont elle montrait la voie. Ça, c'est Swann. Swann sait, à l'avance, la vanité des activités auquel il consacre le plus clair de son temps et dont l'exercice ferait la voix qui sera celle ensuite du narrateur qui saura, lui, se déprendre au fond de son moi empirique pour accéder à ce qui lui échappe et donner le jour, donner la chance, donner sa chance à ce qui lui échappe. Le sommet de cela étant le Vermeer. Swann passe sa vie, trépasse sa vie, si j'ose dire, à faire une étude sur la vue de Delft, de Vermeer. Bon, c'est devant la vue de Delft que meurt Bergotte, en se disant qu'il est passé à côté de son œuvre. Et la vue de Delft est également le tableau favori du narrateur. Mais ils ont tous les trois, Swann, Bergotte et le narrateur, une façon de poser leurs yeux sur ce tableau qui, chez Swann, prend la forme d'un travail inabouti, chez Bergotte, la forme d'un regret, et chez le narrateur, la lumière qui est celle du tableau parvient finalement à éclairer les petites loupiottes qui étaient celles de son enfance quand il était à Combray, c'est-à-dire qu'il fait du tableau le meilleur usage. Il fait avec l'art dont il dispose, c'est-à-dire la réalité dont il dispose, la matière de l'art à venir qui est le sien. Le narrateur parachève l'entreprise inaboutie de Swann, un peu moins inaboutie de Bergotte, mais qui n'empêche pas quand même l'écrivain de mourir avec un regret. Et la petite phrase se métamorphose comme ça, de Swann au narrateur, justement, en passant de l'amertume de l'inabouti, qui est au fond l'amertume du narrateur devant les clochers de Martinville. Il ne sait pas pourquoi, ça l'émerveille. Il a besoin de les décrire, mais il ne sait pas pourquoi. Il a besoin de les conserver, mais il ne sait pas pourquoi. Ou le narrateur devant la petite Madeleine. Il ne sait pas pourquoi il est ému comme ça par la petite Madeleine. Il ne comprend pas. Il a besoin de le dire, mais il ne comprend pas. Swann en est à cet état d'incrédulité, en fait. Swann, c'est le narrateur, c'est l'enfance du narrateur, en vérité. Et le narrateur devenu adulte, c'est-à-dire devenu artiste, ira plus loin que Swann, auquel il est familialement relié dans l'architecture de la recherche, puisque Swann est le voisin des grands-parents du narrateur, c'est le mari d'Odette. Odette, c'est la femme en rose que le narrateur croise chez son grand-oncle Adolphe. Avec Odette, il a une enfant, Gilberte, dont Swann tombe amoureux avant d'aimer Albertine. Gilberte finira par épouser Saint-Loup, qui sera le meilleur ami du narrateur, etc., etc. C'est dire à quel point Swann occupe une place essentielle dans l'économie, dans la vie du narrateur. Mais il est vraiment celui qui... C'est Moïse, Swann. C'est celui qui montre le chemin. Il lui est interdit de franchir le seuil. C'est Zarathoustra. C'est le prophète, si vous voulez. D'ailleurs, quand Swann est atteint d'un cancer et qu'il vieillit, le narrateur, dans un texte tout à fait antisémite, décrit Swann comme retrouvant l'allure antique des prophètes. Décrivant son nez qui s'allonge, etc. C'est un texte épouvantable, magnifique d'ailleurs, mais très difficile à lire. Mais Swann, c'est le prophète. C'est le prophète, c'est-à-dire c'est celui auquel est interdit d'entrer dans les chefs-d'œuvre qu'il désigne, que son existence tout entière désigne au narrateur qui lui sera capable de franchir le seuil.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
Vous parliez, Raphaël, tout à l'heure de la vanité et de l'amour de Swann pour Odette. Écoutons donc le beau texte.
Odette jouait fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus des sons faux tirés par des doigts malhabiles d'un piano désaccordé. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui, pour elle, était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Une marge y était réservée à une jouissance qui, elle non plus, ne correspondait à aucun objet extérieur et qui, pourtant, au lieu d'être purement individuelle comme celle de l'amour, s'imposait à Swann comme une réalité supérieure aux choses concrètes. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir, de sorte que ces parties de l'âme de Swann, où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette.
J'aimerais attirer votre attention, Raphaël, sur le fait qu'en écoutant la sonate jouée par Odette, cette fois qui joue très mal, mais les proportions de l'âme de Swann s'en trouvent changées.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les proportions d'une âme ?
Ben justement, je vous demande.
Parce que le langage de l'espace ne s'applique pas à la spiritualité de l'âme. Comment peut-il parler des proportions de l'âme ? Cette petite phrase a pour effet de lui dilater l'âme. Il dit, comme certains parfums ont pour propriété de dilater nos narines. La voilà. Se contenter de répondre par la musique, puisqu'il suffit d'entendre la fantaisie en ré mineur de Mozart pour comprendre ce que ça veut dire que changer les proportions d'une âme, puisqu'on l'éprouve quand on l'entend, à coup sûr. À tel point d'ailleurs qu'en un sens, il y a quelque absurdité à parler dessus, mais c'est pas grave, on le donne à entendre quelques mesures, à chacun ensuite de les écouter à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Parce que les proportions de l'âme s'en trouvaient changées. En vérité, Swann accède à un registre qui n'est plus celui de l'étendue, qui n'est plus celui des proportions. C'est en cela que les proportions sont changées. En fait, l'âme de Swann accède à la quatrième dimension, c'est-à-dire à la dimension du temps, à la dimension de l'irréversible. Et c'est en cela que son amour, tel qu'il l'éprouve à l'écoute de la petite phrase, il comprend que c'est quelque chose qui ne correspond à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Ça n'est pas seulement parce qu'Odette n'est pas son genre, que son amour n'est pas constatable par d'autres que lui. C'est pas seulement parce que les gens se disent « Quel couple mal accordé, le chic Swann avec cette demi-mondaine, avec cette coquette cocotte qu'est Odette. » Bon, c'est pas seulement le jugement d'autrui, c'est un peu ça hein, pour Swann. Mais c'est pas que ça. C'est aussi parce que la nature même d'un sentiment est de n'être pas saisissable, ni mesurable, ni quantifiable. Et c'est le privilège de la musique, Paola. C'est le privilège de la musique. Proust dit « De même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. » Conclut, il dit « Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée en d'autres voies, celles du langage parlé et écrit. » Voilà ce qui nous reste à nous, pauvres R. Nous n'avons que le langage parlé ou écrit, alors qu'en réalité, c'est-à-dire dans la réalité, il n'y a que la musique et son absence de parole, car le réel est d'une étoffe telle que les mots ne sont jamais assez pour le dire.
Swann n'est pas artiste, c'est ce qu'on a dit, et pourtant c'est un beau geste de peintre ou d'écrivain qu'il a à la fin de cet extrait, parce que j'attire votre attention. Donc, il était libre d'y inscrire le nom d'Odette sur les parties laissées en blanc dans son âme.
Oui, Swann, c'est la matière première de l'artiste. C'est celui qui éprouve ce qu'un artiste doit réussir à éprouver tout en le pensant pour pouvoir le restituer. Swann est un songeur. C'est un mélancolique, Swann. C'est une cause perdue, Swann. C'est un songeur. Il songe. Il est tellement dans le songe, dans le rêve d'un amour, dans l'émotion qu'il éprouve devant la petite phrase, dans la transfiguration du monde par l'art tel qu'il le connaît, et il est tellement cultivé aussi, qu'au fond, il ne sort jamais de sa rêverie pour en faire le cadeau aux autres, sinon sous la forme de quelques formules scintillantes, de quelques traits d'esprit qui font qu'il est totalement toujours bien reçu dans tous les great events du Paris de la Belle Époque.
Bon. C'est sa vie qu'il transforme en œuvre d'art.
C'est pas la Belle Époque, d'ailleurs, c'est avant, pardon.
Il ne laisse pas d'œuvre d'art, mais il transforme sa vie en œuvre d'art.
Sa vie n'est une œuvre d'art que parce que, comme le dit le narrateur lui-même dans un passage où on ne sait plus vraiment à qui il s'adresse, sa vie fait l'objet d'une œuvre d'art. À un moment, le narrateur dit, il y a comme ça des passages où le narrateur sort de son récit et se met à parler avec son lecteur ou avec le personnage qui est censé avoir inspiré le personnage fictif qui est Charles Swann, en l'occurrence Charles Haas. Et il dit, parlant de Swann et à Swann, alors que Swann est mort, il lui dit, et pourtant... C'est juste après l'annonce de la mort de Swann. Il y a un articulé dans le Petit Gaulois qui dit « Charles Swann est mort, on est bien triste, etc. » Enfin bon, voilà, la vie d'un homme est résumée en 5 lignes et puis terminée, basta, on passe à autre chose. Et le narrateur dit « Et pourtant, cher Charles Swann, cher Swann, c'est ce jeune homme que vous deviez tenir pour un imbécile. C'est grâce à lui, peut-être, que vous survivrez. » Et à un moment, et il parle à ce moment-là du tableau de Tissot, le cercle de la rue Royale. Et il dit, dans ce tableau où vous apparaissez, or, qui apparaît dans ce tableau? C'est pas Charles Swann, c'est Charles Haas. De sorte que le narrateur fait référence au véritable personnage, Charles Haas, lequel a disparu derrière Charles Swann, mais c'est le sujet empirique qui disparaît au profit du sujet éternel. Swann n'est pas artiste, mais il est muse. Il est muse de l'artiste dont il ne savait pas qu'il était à côté de lui. Il est muse de l'artiste, c'est-à-dire il est muse pour le narrateur. Il est muse et inspirateur pour le narrateur. Et le narrateur se sert de Swann pour montrer la source vive de la démarche qui fut la sienne. L'une des sources vives de la démarche qui fut la sienne. Et au fond, Swann, c'est son alter ego, c'est son ancêtre. C'est le premier venu dans la longue lignée de ceux qui savent regarder le monde avec l'œil candide d'un artiste, c'est-à-dire d'un enfant. Swann s'entend bien avec le narrateur quand il est enfant, ça n'est pas un hasard. Ce sont des enfants tous les deux. Sauf que la différence entre Swann et le narrateur, c'est que le narrateur fait son miel de son enfance. Alors qu'en un sens, Swann reste prisonnier d'une enfance qui est la sienne. Le narrateur saura convertir l'émotion qu'il éprouve en langue, en littérature, c'est-à-dire en musique. Swann restera toujours en un sens extérieur à cette création qu'il connaît, qu'il comprend mieux que tout le monde. C'est la grande tristesse, c'est la grande amertume de constater à la fin de la vie qu'on est passé à côté de la vie. Et c'est exactement ce qui arrive à Swann. Que sa mort, dont l'annonce de la mort laisse parfaitement indifférent ceux qui étaient ses meilleurs amis et qui, après sa mort, est présenté comme homosexuel par le baron de Charlus qui croit se cacher derrière l'ombre de Swann. Et dont, bien qu'il meure, la duchesse de Guermantes refuse de rencontrer la mère et la fille, si vous voulez. C'est un échec sublime, Swann. C'est peut-être le plus beau de tous. Et c'est une des choses que la recherche, je dois dire, raconte à merveille.
Elle était encore là, comme une bulle irisée qui se soutient. Tel un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse, puis se relève et, avant de s'éteindre, s'exalte un moment comme il n'avait pas encore fait, aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissées paraître, elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Swann n'osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquille aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile, qui était si près de s'évanouir. Personne, à dire vrai, ne songeait à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort, Swann ne savait pas si Vinteuil vivait encore, s'exhalant au-dessus des rites de ses officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de 300 personnes et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles autels où puisse accomplir une cérémonie surnaturelle. Thank you.
C'est étrange, vous trouvez pas le vocabulaire religieux qu'emploie le narrateur ici?
Oui, parce que c'est une cérémonie, c'est une messe, c'est une offrande, et c'est une théophanie ou une épiphanie. La petite phrase, elle délivre en vérité le secret de l'apparition de ce qui apparaît, et elle est le langage des âmes. Alors, il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit très exactement, littéralement, d'une musique divine. En sa petite phrase, dit Proust, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendue la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'espèce de réminiscence musicale que compose cette petite phrase n'est pas un retour en arrière, mais à l'inverse, la découverte impérative, fulgurante, inoubliable, noble, inintelligible et précise, qu'au sein du temps, à l'état pur, les hommes sont les contemporains de toutes leurs émotions. C'est ça que raconte la petite phrase. La petite phrase enseigne l'art d'être le contemporain de son émotion, c'est-à-dire d'éprouver quelque chose tout en se disant qu'on l'éprouve. C'est un exercice fulgurant, stupéfiant, d'être et de savoir simultané. C'est en cela que la petite phrase, il n'est pas question de mensonge ou de vérité ici. Il est question d'apparition. Il n'est pas question d'espoir ou de regret. Il est question d'une rivière qu'on ne voit pas mais dont un rideau de peuplier dessine le cours. Il est question d'une promeneuse, on l'a vu tout à l'heure, que masque le rideau d'une cascade. Il est question d'un esclave dont les chaînes font saillir les muscles, c'est une singularité, la petite phrase, au sens presque que les physiciens pourraient donner à ce terme, ou que les mathématiciens pourraient donner à ce terme. C'est une singularité charnue, aérienne, malléable, c'est un morceau de réel en exil dans l'univers des lieux communs. C'est en cela qu'il y a quelque chose de religieux dans cette petite phrase, parce qu'elle fait le lien. Elle fait le lien non pas entre deux univers, mais elle fait le lien entre le monde des lieux communs, c'est-à-dire le lieu commun du monde où nous nous trouvons et où les gens comparent la petite phrase à l'épisode des tables tournantes, et la réalité toute nue, toute à son âpreté, et toute à la douleur, et toute à la douleur de son irréversibilité. La petite phrase fait le lien entre ces deux univers. C'est exactement ce que Bergson appelle un souvenir du présent. En fait, la petite phrase, vous savez, c'est une défaite de l'écriture. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est une défaite de l'écriture, d'où naît l'art d'être surpris par ce à quoi on s'attend. Car Swann s'attend à voir apparaître la petite phrase, et il n'en revient pas à chaque fois qu'elle apparaît, à chaque fois qu'elle survient. D'ailleurs, au passage, vous pouvez comprendre ici à quel point, Paola, on se fiche, on se fout de savoir si le véritable auteur de cette petite phrase, c'est Fauré, Debussy, Mozart, César Franck. Parce que une telle question remplace l'étonnement par la curiosité, la candeur par l'érudition. C'est le contraire de la question qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas de savoir qui est l'auteur véritable de la petite phrase, mais essayer de serrer au plus loin le mystère de quelque chose qu'on croise toujours par hasard, mais qu'on éprouve à chaque fois comme nécessaire. À la façon, justement, précisément, non pas d'une religion, mais d'un dieu, par exemple, qu'on croise par hasard, mais qu'on éprouve comme nécessaire à l'instant où on le croise.
Vous parliez de la défaite de l'écriture. Ça explique peut-être cette expression assez étrange, c'est la parole ineffable d'un seul absent, puisque Swann ne sait pas alors si Vinteuil est mort ou pas. Et peut-être qu'avant que l'émission finisse, on a le temps de parler de la différence du rapport qu'entretiennent Marcel et Swann avec la petite phrase, parce que quand Marcel l'écoute pour la première fois, il ne reconnaît pas, contrairement à Swann et Odette, directement cette petite phrase. Il la voit pas comme un morceau précis dans le Septuor.
Non seulement on n'a pas le temps d'en parler, Paola, mais en plus on n'a même pas le temps de donner à entendre le passage où le narrateur retrouve cette petite phrase harnachée, maquillée, grimée sous la forme d'un Septuor. La seule chose, à la rigueur, qu'on peut entendre, c'est l'un des moments où Albertine, cette fois-ci dans le rôle d'Odette, joue au narrateur, lui-même dans le rôle de Swann, la petite phrase en question.
Ce fut un de ces jours-là qu'il arriva à Albertine de me jouer la partie de la sonate de Vinteuil où se trouve la petite phrase que Swann avait tant aimée. Mais souvent, on n'entend rien, si c'est une musique un peu compliquée qu'on écoute pour la première fois. Et pourtant, quand plus tard, on m'eut joué deux ou trois fois cette sonate, je me trouvais la connaître parfaitement. Aussi n'a-t-on pas tort de dire « entendre » pour la première fois. Seulement, je n'avais encore, jusqu'à ce jour, rien entendu de cette sonate. Et là où Swann et sa femme voyaient une phrase distincte, celle-ci était aussi loin de ma perception claire qu'un nom qu'on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que du néant, un néant d'où, une heure plus tard, sans qu'on y pense, s'élanceront d'elles-mêmes, en un seul bond, les syllabes d'abord vainement sollicitées. De là, la mélancolie qui s'attache à la connaissance de tels ouvrages, comme de tout ce qui se réalise dans le temps. Quand ce qui est le plus caché dans la sonate de Vinteuil se découvrit à moi, déjà entraîné par l'habitude hors des prises de ma sensibilité, ce que j'avais distingué, préféré tout d'abord, commençait à m'échapper, à me fuir. Pour n'avoir pu aimer qu'en des temps successifs, tout ce que m'apportait cette sonate, je ne la possédais jamais tout entière. Elle ressemblait à la vie.
Merci Raphaël, merci à tous, François Connac, Alice Ramon, Alice qui met à votre disposition écoutes en ligne et bibliographie. À la lecture aujourd'hui, Valérie Lang, qui nous manque beaucoup et qui lit si bien Proust. Samedi prochain à la même heure pour parler des mots de Sartre.
N'oublions pas de dire, Paola, que nos auditeurs peuvent demain retrouver la série Le Pouvoir Imaginaire, enregistrée tantôt sur la grande scène du Théâtre de l'Odéon, tantôt à l'Auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse, à l'occasion du Marathon des mots. Les diffusions, c'est donc demain, comme tous les dimanches, de 16h à 17h sur France Culture.
Je vous rappelle que les kiosques de France abritent toujours et encore le numéro hors série de Philosophie Magazine, spécial Friedrich Nietzsche. Sur France Culture, tout de suite, une vie, une œuvre.